Je vous invite à vous tourner dans le livre de Paul aux Thessaloniciens. Alors c'est après les évangiles, page 231 dans la Bible à la colombe. Donc on a commencé l'étude de ces lettres de l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Thessalonique. On entend d'abord parler de cette ville de Thessalonique dans le livre des Actes. Lorsque Paul se sent appelé à venir en Europe par l'Esprit Saint, la vision d'un homme de Macédoine, Paul et ses disciples sont obéissants et ils viennent en Grèce, dans le d'abord dans la région de Macédoine, au nord de la mer Égée. C'est là qu'ils sont d'abord à Philippe, puis à Thessalonique et à Bérée, et ainsi de suite. C'est le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et Paul apparemment n'était resté que quelques semaines à Thessalonique, qui était un grand carrefour, une grande ville à l'époque de l'apôtre Paul, une des cités principales de l'Antiquité, avec Rome, Alexandrie, il y avait près de 200 000 habitants. C'était une ville carrefour parce qu'il y avait des voies de passage. Il y avait la voie ignatienne qui reliait le Moyen-Orient à l'Europe et à Rome. Paul avait fait quelques convertis, ou plutôt le Seigneur avait parlé au cœur de plusieurs personnes qui s'étaient converties. Et Paul avait toujours ce souci de prendre soin des églises qu'il implantait. Aujourd'hui, on a des fois des grands noms dans les télés chrétiennes, les télévisions chrétiennes, dans le circuit chrétien. C'est des gens qui semblent attirer plus l'attention sur eux-mêmes et sur leur ministère que sur Jésus, et qui, une fois qu'ils sont passés dans une ville, qu'ils ont rassemblé des foules dans un stade, n'ont pas vraiment à cœur de revoir les gens qui se sont avancés, parce qu'ils sont en souci de continuer et d'avoir un autre grand rassemblement qui exaltera leur nom. Paul, c'était tout l'inverse. Il avait à cœur, et on va le voir, on l'a déjà vu pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs mois, années. Il était plein de tendresse, plein d'affection pour les chrétiens qu'il avait vus se convertir par son ministère. Et il commençait cette lettre en disant qu'il rendait continuellement grâce à Dieu pour eux. Il remerciait Dieu pour leur existence, pour leur vie de chrétien, et il avait à cœur de les fortifier. Comme toujours, il y a des attaques à l'œuvre de Dieu. Quelque part, c'est même un bon signe que d'avoir des choses difficiles, de l'opposition, ça prouve qu'il y a une réaction de l'ennemi. Alors c'est peut-être un peu difficile des fois, mais on peut se réjouir que lorsqu'on fait des pas vers le Seigneur pour le suivre, pour être ses disciples, l'opposition, elle n'est pas toujours drôle à vivre, mais au moins elle doit nous conforter sur le fait qu'on est dans la voie du Seigneur qui nous a promis des persécutions, que le Maître, les disciples ne sont pas plus grands que le Maître, et s'ils ont persécuté le Maître, pourquoi est-ce qu'on nous irions imaginer que pour nous ce serait toujours facile et qu'on irait de victoire en victoire? Nous avons la victoire, encore une fois. Le secret de la vie, nous avons parlé il y a 2 semaines, c'est de voir la fin de l'histoire et de revenir en arrière. Nous savons que nous sommes vainqueurs en Christ, et ça nous permet de supporter les épreuves qui nous font face aujourd'hui. Et donc il y avait cette opposition qui se manifestait, et Paul a été un exemple parfait d'une vie consacrée à Dieu qui a subi beaucoup, beaucoup d'opposition. Il y a l'opposition de l'extérieur, les autorités qui sont contre vous, les autorités qui vous mettent en prison. Il y a les païens qui vont vous courir après, etc. Mais il y a aussi, lorsque Satan ne peut pas attaquer de l'extérieur, il va attaquer de l'intérieur. Des fois, il combine les deux. C'est souvent les problèmes de division dans l'Église. Il faut être vigilant, très vigilant. On peut diviser une église par le choix de la couleur de la moquette. Ça peut paraître stupide, mais ça peut être l'occasion de dire, oui, tiens, le pasteur a écouté telle personne qui voulait une moquette verte, alors que moi qui en voulais une jaune, il m'a ignoré. Il a des favoris. Et c'est malheureusement souvent le cas. Pour des bêtises, les chrétiens vont se disputer, ne vont pas montrer l'amour que Jésus nous invite à montrer au monde pour qu'on sache, pour que le monde sache que nous sommes ses disciples. Et là, de toute évidence, il y avait des personnes de la ville de Thessalonique. Si on en a reparlé, mais brièvement, il y avait eu une persécution de Paul à Philippe, parce que c'est dans Actes 16. Ils avaient libéré une jeune fille de démons qui permettait à cette jeune fille d'annoncer le futur. Et ses patrons, qui avaient perdu leurs ressources, leur poule aux œufs d'or, ainsi qu'on pourrait dire, les avaient dénoncés auprès des autorités en disant que c'était des ennemis des Romains. Donc Paul et son disciple Silas s'étaient retrouvés en prison, et c'est là qu'ils chantaient des hymnes, ils chantaient des louanges, et que les prisonniers les écoutaient. Vous vous souvenez qu'il y a... Il y a ce tremblement de terre. Dieu peut agir de mille façons, des fois naturelles apparemment, des fois surnaturelles. Mais il y avait eu ce tremblement de terre qui les avait libérés de leurs chaînes. Le geôlier pensait qu'il allait être tué parce que les prisonniers allaient se libérer, mais non. Les apôtres lui disent non, plutôt Paul et Silas lui disent non, n'aie pas peur, toi crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le geôlier les invite chez lui. Et puis les Romains viennent et disent qu'il faut au geôlier qu'il faut les libérer. À ce moment-là, Paul se réclame de sa citoyenneté romaine en disant qu'est-ce que c'est que ça, on nous a mis en prison alors qu'on est romain, c'était interdit par la loi. Et maintenant, on voudrait nous libérer secrètement. Donc, ils sont libérés après des excuses des Romains. Ils vinrent les apaiser, les libérer en les priant de quitter la ville. On vous aime bien, mais allez voir ailleurs. C'est là qu'ils partent à Thessalonique. Et là, les Juifs qui étaient jaloux les chefs religieux juifs les attaquent aussi. Et ils essayent de mettre la main sur eux. Et lorsque Paul et ses disciples décident de continuer en allant à Bérée, on voit que, d'après le passage que nous allons lire aujourd'hui, qu'ils étaient, ces opposants qui étaient de Thessalonique, essayaient de dire que l'apôtre Paul ne valait pas la peine d'être écouté, que son évangile n'était pas un vrai évangile. On va lire ensemble le chapitre 2 de 1 Thessaloniciens, page 231, dans la Bible à la Colombe. Donc Paul qui s'adresse dans cette lettre aux habitants de Thessalonique et à travers eux, par la parole, à nous-mêmes. Vous savez vous-mêmes, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, Ainsi, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhortés, consolés, adjurés de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Arrêtons-nous ici. Paul faisait face à une opposition de chefs religieux. Encore une fois, cette ville de Thessalonique était une ville de grands passages, de grands brassages de tous les régions du monde antique. Et il y avait beaucoup de religions qui foisonnaient, qui se trouvaient là, qui étaient représentées. Des religions qui cherchaient aussi à faire des adeptes, un peu comme notre monde aujourd'hui. Au point où il y a des gens qui nous disent « On aimerait bien trouver Dieu, mais pourquoi croire votre interprétation de la Bible et pas celle des témoins de Jéhovah ? Pourquoi ne pas croire au Coran ? Pourquoi ne pas suivre la scientologie ?» Après tout, il y a des artistes de cinéma que j'aime bien qui sont fanas. Et on voit le même mélange, le même abondance de fausses religions. Et c'est pour ça qu'on peut tirer un encouragement de l'étude de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. On dit en français, plus les choses changent et plus c'est la même chose. Et c'est bien vrai. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait l'Ecclésiaste. Et la multiplicité des réponses spirituelles continue aujourd'hui. Et donc, ces autres religions, ces chefs religieux juifs notamment, on va en reparler, essayaient de discréditer le messager pour atteindre le message. Et ça, c'est une façon que Satan sait utiliser en nous faisant commettre des péchés, avoir des attitudes qui font dire aux autres « si c'est ça, être chrétien, non, merci ». D'où notre responsabilité, d'où la nécessité de demander l'aide de Dieu pour être des témoins fidèles. Lorsqu'une église se divise, lorsqu'il y a des disputes au sein des chrétiens, Satan se régale. Parce que ces disputes, ces divisions discréditent le message de l'Évangile. Vous allez vous dire que peut-être Paul était un peu préoccupé de sa réputation, qu'il était un peu égocentrique à vouloir toujours se défendre, mais comprenez bien qu'il se moquait de sa réputation dans le fait que ce n'est pas à lui qu'il voulait qu'on rende gloire ou qu'on le considère comme un grand homme. Mais il ne voulait surtout pas que les critiques contre sa personne discréditent le message de l'Évangile. lorsque, et vous le savez d'ailleurs, lorsque vous disputez dans la famille, vous avez pas tellement envie de parler de l'Évangile ou de l'amour de Christ pour les hommes, parce que vous vous sentez comme un hypocrite. Si vous vivez dans le péché, vous n'avez pas envie de défendre l'Évangile parce que vous vous dites « Oui, en fait, je suis un hypocrite. » Et Satan le sait bien. Il veut que nous nous taisions. Et Paul va donc se défendre des accusations. Il y a un commentateur qui fait un peu la liste des accusations qui devaient être portées contre Paul quand on voit sa défense. Le verset 2, il dit qu'il a souffert et a été maltraité à Philippe. En fait, ça veut dire que les gens rappelaient aux personnes de l'église de Thessalonique que Paul avait eu des ennuis avec les autorités. Paul n'a pas un casier judiciaire vierge. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à une telle personne? Verset 3, ils accusaient Paul d'être dans l'erreur, d'avoir des fausses idées, mais Paul dit « Nos exhortations ne provenaient pas de l'erreur. » Paul sait qu'il avait raison dans ce qu'il annonçait. Dans le même verset, il disait que on l'accusait d'avoir des motifs impurs. Ça peut être des motifs qui ne sont pas purement pour la gloire de Dieu, ça peut être des motifs qui ont des implications d'immoralité sexuelle. Et Paul dit non, ça n'était pas le cas. Paul était accusé de tromper les gens par la ruse. Verset 3 encore, ce n'était pas de la ruse qu'il a utilisée avec eux. Toutes ces techniques, c'était en fait des techniques utilisées par les charlatans religieux. Paul, ses ennemis disaient qu'il cherchait d'abord à plaire à lui-même, qu'il se servait d'abord pas à Dieu. C'est là qu'il dit verset 4, qu'il ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. On va y revenir. Ils accusaient Paul d'être dans le ministère, d'annoncer l'Évangile pour des raisons de cupidité, de désir d'argent. Paul dit « Nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile. » On l'accusait aussi, verset 6, de rechercher la gloire personnelle. Paul dit « Non, ce n'était pas le cas. » On l'accusait d'être quelqu'un un peu dictatorial. Paul dit « Non, nous aurions pu avoir une attitude de dictateur en disant « Écoutez-moi, je vais écrire la moitié du Nouveau Testament, alors taisez-vous, écoutez-moi et vous n'avez pas le droit de parler avec moi ou contester ce que je vous dis. » Mais Paul dit « Nous aurions pu nous imposer, mais c'est parce que nous avons été pleins de douceur. » Et donc, ces accusations, Paul les réfute. Et on peut dire, oui, c'est bien facile de dire « j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». Mais Paul fait appel à leur connaissance de Paul lui-même. Il leur dit « Vous me connaissez ? Est-ce que j'ai fait aucune de ces choses ?» S'il avait été victime d'une de ces erreurs, de ces attitudes, les gens auraient dit « Oui, c'est vrai, quand on a vu Paul, il essayait toujours de demander de l'argent, il voulait toujours imposer avec force ses points de vue, il essayait de flatter les gens, il essayait de tromper. » Mais Paul leur dit « Hé, vous me connaissez ? J'ai jamais fait ça. » Alors peut-être vous vous dites c'est bien beau, là on voit Paul qui se défend en tant que pasteur. En quoi ça me concerne? Moi qui ne suis pas pasteur, moi qui ne suis pas missionnaire peut-être, moi qui suis maman, mère de famille, moi qui suis étudiant, ces recommandations nous concernent tous, encore une fois, parce que Dieu veut que son message ne soit pas discrédité par le porteur du message. Et nous sommes tous appelés à être des porteurs du message. Lorsque vous parlez à un ami au lycée, lorsque vous parlez à un ami au collège, à la fac, lorsque vous parlez à des collègues de travail, lorsque vous parlez à des voisins, à la famille, qui est très critique souvent, vous ne voulez pas que votre attitude, vos comportements discréditent la vérité du message. Donc, nous devons tous prendre de la graine de ce que Paul annonce ici. Il leur dit, vous savez, vous-même, c'est pas inventé, vous m'avez connu, on s'est vu, on s'est connu. Vous savez que ma venue chez vous n'a pas été vaine. Les critiques disaient qu'en fait Paul était valérien du tout, et Paul leur dit, mais vous savez qu'il y a eu des résultats, il y a eu des vies transformées, des gens qui sont venus à Christ. Ça n'a pas été sans résultat. Et puis il rappelle ses souffrances. Il dit que nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Le mot « combat », c'est le mot qui nous donne le mot « agonie ». Paul était prêt à souffrir jusqu'au bout, à être martyrisé, à être frappé, à être noyé, à être naufragé plus exactement. Il en parle dans le livre des Corinthiens. Il avait cette énergie pour amener l'évangile. Et il avait pris de l'assurance en Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu. Peut-être vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais moi je ne sais pas annoncer l'évangile de Dieu. D'abord, je suis plutôt timide. J'aime pas me faire remarquer. Est-ce que vous avez jamais pensé à demander à Dieu l'audace d'ouvrir votre bouche ? Lorsque le Saint-Esprit frappe à la porte de votre cœur pour vous dire « Ça y est, vas-y, tu peux dire un petit mot. » Ou est-ce que vous dites « Oh, je ne suis pas préparé. » Paul lui-même avait pris de l'assurance en son Dieu, en notre Dieu. On va avoir de l'évangélisation à la fin de la semaine. Alors normalement, on n'a pas le droit d'annoncer au micro l'évangile. Mais on peut toujours, par nos attitudes, en parlant aux gens dans la foule, on vous appelle à prendre de l'assurance en notre Dieu pour expliquer aux gens qu'il y a un espoir. Et je suis vraiment béni par les personnes non chrétiennes que vous invitez au café, dans les réunions. J'ai eu une merveilleuse conversation avec quelqu'un vendredi soir parce que quelqu'un a invité cette personne à venir à une manifestation. Les gens sont sans espoir. L'espoir, ça peut être la victoire de l'équipe nationale. Heureusement que nous, chrétiens français, on a autre chose que notre équipe nationale comme espoir. Parce qu'on aurait vraiment de quoi être désespéré. Et même ceux qui ont encore de l'espoir, ce soir, ils n'en auront peut-être plus. On voit la vanité, le manque de sérieux de ce qui nous fait vivre. Le matin, quand vous levez, est-ce que c'est « chouette aujourd'hui, c'est la victoire de mon équipe » peut-être. Ou est-ce que c'est « Bonjour Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui ?» C'est Dieu qui donne l'assurance, le courage. Et vous avez un cercle de personnes à toucher que personne d'entre nous ne connaît. Des amis, des voisins, que seuls vous connaissez, vous êtes peut-être le plan de Dieu pour les toucher. Dieu est plus grand que nous tous et on peut lui faire confiance que si on désobéit, il ne va pas condamner ces gens, qu'ils auront d'autres occasions. Mais prenons de l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Encore une fois, il exhortait, il encourageait les gens à venir à Dieu, pas en les trompant. Il leur disait pas, si vous venez à Dieu, vous allez être riche, vous allez être en bonne santé, tous vos problèmes vont disparaître. Non, il ne disait pas ça parce que c'est pas la vérité. Et aujourd'hui encore, on voit des groupes, on voit des gens qui essayent d'appâter les gens avec le bonheur d'être chrétien. Le bonheur d'être chrétien, c'est pour la fin, vraiment. Dieu peut nous donner de bonnes choses, mais les souffrances, les épreuves, ça fait partie du lot de tous les hommes, sauvés ou non sauvés. Parce que nous vivons dans un monde qui a été touché, entaché par le péché. Il n'avait pas des motifs impurs, il n'essayait pas de ruser. Vous savez, quand on va à la pêche, le principe de la pêche est de tromper le poisson. Lui faire croire qu'au bout de la ligne, il y a un beau petit ver. Et une fois que le pauvre poisson se fait prendre, ch'tac, on le ferre, il se trouve au bout de l'hameçon et il est trop tard. Paul n'essayait pas de masquer l'évangile. Et c'est très important d'annoncer l'évangile en vérité. Et c'est le thème de ce livre. C'est pas pour... Dieu vous aime. Dieu va vous donner de bonnes choses, mais ne le rejetez pas dès qu'il y a des épreuves. Parce qu'il ne vous a pas promis une vie sans problème. Il vous promet une vie abondante. Et l'abondance, ça peut des fois inclure, et le plus souvent ça inclut des périodes d'épreuves, des périodes difficiles, des périodes de souffrance. Mais peu importe, avec lui, on traverse les épreuves. Avec lui, on est victorieux et à la fin, on gagne la coupe éternelle. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu qui éprouve les cœurs. Dieu l'avait mis à l'épreuve pour lui confier l'évangile. Le terme de mettre à l'épreuve, c'était le terme qu'on utilisait pour savoir si quelqu'un était éligible, quelqu'un était capable ou en droit d'être élu à un poste de responsabilité dans la démocratie grecque ou dans l'Empire romain. C'était une mise à l'épreuve, et Dieu nous confie l'évangile, il nous met à l'épreuve. Il voit comment nous nous comportons, il nous dit d'être fidèles dans les petites choses et il nous donnera de plus grandes choses à faire. Et l'évangile, ça peut être simplement de dire « Merci Seigneur ». Lorsque vous avez une épreuve et que vous racontez à quelqu'un comment Dieu vous a aidé. La personne dit « Ah ben, t'as eu de la chance !»
Alors, vous pouvez dire « Oui, je crois que j'ai eu de la chance. »
Alors que là, c'est l'occasion rêvée pour dire « Je ne crois pas que c'est de la chance, je crois que c'est une réponse à des prières, à mes prières et à la prière de mes frères, parce que je sais que Dieu existe. » C'est tout. La personne va dire « Tiens, je pensais que Marie-Christine était une femme sensée, elle croit en Dieu. » Je pensais que Thomas, il pensait qu'il allait avoir son bac parce qu'il a travaillé dur, mais non, il dit que c'est grâce à Dieu si ça arrive. Ça fait réfléchir les gens. Ça leur montre qu'il y a des gens autour d'eux qui ont une autre référentiel, qui ont une autre façon de voir le monde. Ça peut les amener à ne pas suivre comme des moutons le politiquement correct, la pensée du jour. Et nous avons quelque part un privilège en France, c'est qu'être chrétien, c'est être anticonformiste. On a tous quelque part cette attitude de rébellion en tant que pécheur. Aux États-Unis, par exemple, beaucoup de la population se dit encore chrétienne, même si elle est loin de se comporter de façon chrétienne dans bien des sujets. Mais en France, être chrétien, c'est, c'est être vraiment une bête bizarre. Et au lieu d'être gêné de ça, tirons-en avantage. Disons, oui, je sais, ça peut paraître ridicule, mais je crois à ce que la Bible dit. Je ne crois pas nécessairement à l'histoire de l'Église, à ce que les catholiques, ce que la tradition en a fait, mais j'ai rencontré ce Dieu de la Bible que j'ai trouvé dans la Bible. Et si on commence à faire ça, ça va, le Seigneur peut utiliser ça avec son Esprit Saint pour causer un réveil. Mais nous devons ouvrir la bouche. Nous devons parler non pour plaire aux hommes. Vous n'allez pas, c'est pas la façon d'être populaire, de dire que vous croyez en Christ. Mais c'est une façon de plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Lorsque vous montrez à Dieu que vous avez confiance en ce qu'il annonce dans sa parole, vous lui plaisez. Vous aimez que les gens vous croient lorsque vous leur annoncez des choses qui sont vraies, n'est-ce pas? S'ils se moquent de vous en disant « bof », vous êtes un peu blessé et Dieu, c'est la même chose. Il nous annonce des choses, il a tout fait pour nous prouver qu'elles sont vraies et nous sommes là à dire « oh, je suis pas sûr, peut-être, avec un peu de chance ». Non, nous devons plaire à Dieu en lui faisant confiance, en annonçant autour de nous sa parole. Ça, c'est un grand principe, plaire à Dieu et non pas chercher à plaire aux hommes. J'avais été invité il y a quelques années par un ami à venir faire une conférence pendant 5 jours sur ce thème. En fait, j'ai décliné, j'étais pas disponible, mais en même temps, je me disais, prêcher 5 messages sur l'idée de que Dieu veut qu'on lui plaise et qu'on ne cherche pas à plaire aux hommes. Je m'étais dit, mais il n'y a pas assez de matériel dans la Bible pour parler de ce sujet. Mais j'avais commencé à regarder et en fait, c'est frappant. C'est un grand principe. Dieu dit, ne cherchez pas à plaire aux hommes, cherchez à me plaire. On peut chercher à plaire aux hommes, mais on sait que les hommes changent d'avis comme de chemise. On peut être, allez les bleus, et le lendemain on est honni, on est exécré. Les opinions des hommes sont tellement volatiles, tellement peu fiables. Vous ne pouvez pas bâtir votre vie sur le désir de plaire aux hommes. C'est pour ça que c'est tellement plus simple d'annoncer la vérité de Dieu. Elle va provoquer des mauvaises réactions, de l'opposition, mais même si vous essayez de plaire aux hommes, vous aurez de l'opposition un jour ou l'autre. Autant le faire pour ce qui est vrai, pour ce que Dieu nous demande de faire, sachant que ça lui plaît et que vous l'honorez. Paul se défendait d'avoir utilisé des paroles flatteuses, la flatterie. C'est aussi une façon qu'on utilise pour plaire aux hommes. Oh, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent. Vous êtes les plus forts. Paul se défendait de jamais essayer de flatter les gens. Verset 5, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Beaucoup font du tort à l'Évangile en essayant de l'annoncer pour des raisons de cupidité, pour avoir de l'argent, pour récolter de l'argent. En France, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a tellement peu de ces bêtes bizarres qu'on appelle chrétiens, qu'en général, les gens ambitieux qui veulent faire fortune ne cherchent pas à devenir pasteurs. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Certains pays d'Amérique, certains pays africains, devenir pasteur, c'est une façon d'accéder à des revenus beaucoup plus importants que le commun des mortels. Là encore, on a cette chance en France, entre guillemets, une chance, une bénédiction, de rarement être suspecté de cupidité lorsqu'on est pasteur. Nous sommes heureux, quelque part, de ne tirer aucun revenu des dons que vous faites à l'Église. Ça sera bien le jour où on sera assez nombreux pour avoir plus de ressources, peut-être pour payer un ou des pasteurs. Mais en attendant, on est soutenu par des amis, des églises. Et donc, un peu à l'image de Paul, on dit, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Et quelque part, c'est libérateur. On n'a pas cette menace d'être accusé de ce vice qui malheureusement peut être fréquemment rencontré dans certains pays ou dans certains milieux. Paul n'a pas cherché à frapper du poing sur la table, au contraire, verset 7, il a été plein de douceur au milieu de vous. Là, il va prendre plusieurs images, il va prendre l'image d'une mère qui prend soin de ses enfants. Souvent, le Saint-Esprit est comparé dans la parole, Dieu lui-même est comparé à une mère qui a de l'amour, un amour inconditionnel pour ses enfants. Une mère est généralement pleine de douceur dans son traitement de ses enfants. Quand les enfants font des bêtises, souvent c'est « tu vas voir quand ton papa va rentrer ». J'entends des acquiescements. Parce que il y a cette tendresse maternelle, il y a ce soin de l'enfant qu'on a porté, qu'on a mis au monde. L'amour d'une maman pour son enfant, c'est la chose la plus proche sur la terre de l'amour que Dieu a pour tous les hommes. Un amour qui ne dépend pas de la conduite de l'autre, mais qui est basé sur une relation voulue, une relation naturelle. C'est pour ça que c'est toujours choquant lorsqu'on entend parler de mamans qui maltraitent ou qui font du mal à leurs enfants. C'est tellement contre la nature humaine. Ce principe que Dieu a mis dans le cœur des hommes d'avoir de l'amour pour ses enfants. Et Paul dit, en fait, quand je pense à vous, moi je suis comme une maman qui a du souci pour ses enfants, qui veut qu'ils soient bien, qu'ils grandissent bien, qu'ils aient assez à manger, qu'ils ne mangent pas trop, qu'ils aient assez de repos, qu'ils dorment, qu'ils se reposent, qu'ils voient d'autres enfants. Et on voit la tendresse qu'il a pour eux. Il a dit, je ne suis pas comme ces charlatans religieux, vous le savez d'ailleurs. Vous avez vu ma tendresse pour vous. Non seulement pour vous annoncer, pour vous donner l'évangile de Dieu, mais même nos propres vies, tant vous nous étiez chers, il était prêt à souffrir jusqu'à la mort pour le bien-être, pour le bonheur, pour ses enfants. En Christ. Quelqu'un indique, les gens se moquent de ce que vous savez tant qu'ils ne se soucient pas de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas que vous vous souciez d'eux. Si les gens ne réalisent pas que vous avez de l'amour pour eux, vous pouvez avoir des tas de choses à leur dire, ils ne vont pas vous écouter. Et ça, c'est vrai dans votre témoignage personnel. Est-ce qu'avant de parler à la personne de Dieu, vous avez parlé à Dieu de la personne ? Autrement dit, est-ce que vous avez d'abord prié pour la personne, pour demander que Dieu ouvre son cœur ? Encore une fois, on a dit que vous pouvez arriver avec un projecteur de 10 000 watts, de 10 000 lumens dans le visage d'un aveugle, ça ne va pas faire de différence. Il faut l'opération du chirurgien qui est l'Esprit Saint pour ouvrir les yeux du cœur de la personne. Et lorsqu'on fait l'évangélisation, la prière, c'est la clé. Je vous demande d'ailleurs vraiment d'être dans la prière pour ces journées d'évangélisation, pour l'évangélisation qu'on prévoit de faire les mercredis soirs avec Manu sur la place publique, sur les places pendant l'été. La prière, c'est la clé. Parlons à Dieu des gens à qui on veut témoigner avant de témoigner auprès d'eux. Il les appelle, il dit qu'il était comme une mère, il leur rappelle qu'il était un frère. Il ne s'imposait pas comme moi, l'apôtre Paul. Vous vous rappelez, verset 9, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Il leur dit, mais rappelez-vous, est-ce que je vous ai jamais demandé quoi que ce soit? Est-ce que vous m'avez donné de l'argent? Est-ce que... Non, je travaillais nuit et jour. Alors ça ne veut pas dire qu'il travaillait 24 heures sur 24, probablement, mais qu'il commençait son travail quand il faisait encore nuit et qu'il travaillait très tard. Il était fabricant de tentes. On le sait par d'autres passages, il était un collègue de Prisca et Aquilas. Et il ne voulait être à la charge de personne. Et il leur prêchait l'évangile. Encore une fois, il a passé que quelques semaines, mais il leur a parlé de tout l'évangile. Vous êtes témoins, verset 10, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Si vous voulez que les gens reçoivent le message de l'Évangile, vous devez les traiter d'une manière juste, irréprochable, sainte, juste et irréprochable. Souvent, on conseille toujours, justement dans le témoignage, que ce soit des hommes qui parlent à des hommes et des femmes qui parlent à des femmes. Les hommes qui vont parler à des femmes, il est très facile que ça dévie sur d'autres motifs que le motif de l'Évangile. La réponse que vous pouvez avoir parce que vous êtes un homme qui parlait à des femmes sur l'Évangile ou l'inverse, ça peut être bien souvent une réponse non pas à l'Évangile, mais une réponse à « Tiens, cette personne me plaît, j'aimerais la connaître davantage ». Ah oui, ah, formidable évangile, oui. Peut-être qu'on pourrait faire une étude chez moi tous les mercredis soirs, ou tu serais d'accord? Non, il doit pas y avoir de motif mitigé comme ça. Et une façon de prendre garde, parce que c'est souvent quelque chose un peu naturel de se dire « Tiens, cette personne est sympathique, je vais écouter ce qu'elle a à me dire, même si j'y crois pas du tout. » Soyez vigilants aussi pour discerner si les gens sont intéressés par votre message ou par ce que vous représentez. Il y a eu un temps où on était ici, on entendait des récits de personnes qui étaient parties implanter des églises en Russie. Ils venaient, ils faisaient quelques concerts, un peu d'évangélisation. Le groupe repartait et le dimanche suivant, il y avait 100 personnes qui se réunissaient dans une salle louée pour l'occasion et il y avait une église qui avait commencé. En fait, on s'est aperçu que bien souvent, ces personnes, par exemple en Russie, en Ukraine, venaient à ces réunions parce qu'elles se disaient... C'est des Américains ou c'est des Occidentaux. Peut-être que par eux, je peux regagner la liberté. Je peux quitter mon pays. Peut-être que j'aurai un bon travail à Hollywood. Et donc là aussi, il y avait des motivations qui n'étaient pas des motivations uniquement basées sur l'appel de Dieu, sur la réalité de l'Évangile. Et nous devons être conscients de ces choses aussi. Est-ce que les gens répondent au message de l'Évangile ou répondent parce qu'ils ont d'autres espérances? que ce soit parce qu'ils aimeraient bien mon amitié, parce qu'ils pensent que je peux les aider professionnellement, je peux les aider financièrement. Demandons à Dieu le discernement avant de nous emballer. Paul avait été une mère, il était un frère, mais il était comme un père aussi. Nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. On a fêté la fête des pères la semaine dernière, on n'a pas vraiment célébré cette fête des pères. Encore une fois, nous avons à reconnaître que c'est un rôle formidable, un rôle plein de responsabilités. Il les avait exhortés, c'est-à-dire encouragés dans le bon sens en les reprenant. Il les avait consolés, adjurés, c'est un terme très fort, ça veut dire que vous dites aux gens de marcher d'une manière digne de Dieu en leur disant que c'est quelque chose d'essentiel, qu'ils ne peuvent pas se contenter de croire sans transformer leur croyance en attitude, en comportement journalier. Nous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Encore une fois, Paul leur dit, ce qui compte, c'est pas les épreuves de maintenant, c'est pas le passé, c'est le futur. Dieu nous appelle à marcher avec lui parce qu'à la fin, il y a le royaume de Dieu, il y a la gloire. Et ça nous aide à supporter toutes les épreuves, toutes les difficultés. Paul était un apôtre. Nous sommes tous envoyés par Dieu. C'est ce que veut dire le mot apôtre. Ce n'est pas apôtre au sens biblique, mais nous sommes tous appelés à être des témoins là où nous nous trouvons. Et toutes ces remarques que Paul utilisait pour défendre son ministère, nous devons les prendre en charge pour nous-mêmes. Pour pas qu'on dise « Oui, peut-être que c'est vrai, mais franchement, je vois pas d'effet dans ta vie. » Et Satan sait que lorsqu'il nous conduit à pécher, nous acquiesçons, nous n'avons pas à lui obéir lorsqu'il nous demande de pécher. Nous sommes libres maintenant, nous avons la puissance de Dieu pour résister à la tentation et au péché. Satan sait que lorsqu'il nous fait tomber, il nous rend silencieux. Soit parce que nous n'aurons pas le courage ou l'hypocrisie de dire quelque chose que nous ne faisons pas, soit parce que les gens eux-mêmes diront « Tu me dis des choses, mais tu ne les vis pas ». Donc nous devons prier que Dieu nous donne de marcher dans ses voies pour que le message soit reçu 5 sur 5. Amen. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui.